Nous allons tout de suite enchaîner sur le deuxième thème autour des dispositifs anticorruption. Alors, ce dispositif anticorruption, si on se remet un petit peu en perspective, la loi Sapin 2 a été adoptée il y a maintenant un peu plus de 4 ans, et les entreprises ont, pour la plupart, quand même initié un programme de prévention de la corruption. Même si la crise avait semblé un petit peu estomper les enjeux de ce risque, notre expérience et l'expérience de notre équipe en éthique et en compliance nous montre que c'est un sujet clé pour les entreprises, alors dans le cadre de leurs opérations de croissance externe ou au day-to-day. Alors, nous allons voir avec donc notre équipe dédiée en éthique des affaires et en compliance, avec mon associé Anesh Aibitz, Lionel Yemal et Anne-Charlotte Bouris, qu'il reste encore beaucoup à faire pour les entreprises, pour démontrer que les dispositifs de corruption ont une effectivité, sont bien réels. Alors, bonjour à tous les trois, merci. On va commencer par Anès. Peux-tu nous expliquer pourquoi, quand même, 4 ans après la loi Sapin, le sujet reste quand même, le sujet stratégique pour les entreprises, c'est l'effectivité de leur dispositif anticorruption?
Et bonjour à toutes et à tous. C'est exact, Christophe. Nous observons les deux grandes tendances suivantes. La demande croissante des due diligence anti-bribery, anti-corruption, dit ABAC, et l'émergence du sujet de l'effectivité du dispositif anti-corruption dans le cadre du reporting extra-financier, dit ESG. Alors, tout d'abord, les investisseurs, en particulier ceux venant des US ou du UK, souhaite d'une manière standard que, dans le cadre de la legal due diligence, l'efficacité du dispositif anticorruption des cibles d'investissement soit analysée afin de pouvoir évaluer le risque d'une infraction à la loi française dite Sapin 2, au UK Bribery Act ou même au Foreign Corrupt Practices Act américain, FCPA. L'autre tendance majeure est la prise de conscience des grandes entreprises et en particulier des fonds d'investissement, de l'importance des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Ce sont les dimensions englobant les activités d'une entreprise pouvant avoir des impacts sur la société ou l'environnement. D'un engagement volontaire dit soft law dans le passé, cela devient de plus en plus réglementé. L'ESG vise en réalité les trois dimensions principales utilisées pour mesurer la durabilité et l'impact éthique d'un investissement dans une société. Et dans deux de ces trois dimensions ESG, nous retrouvons les sujets intrinsèquement juridiques, l'alerte éthique, les enquêtes internes dans la dimension éthique et l'efficacité d'un dispositif anticorruption dans la dimension de gouvernance, le G dans ESG. Dans le contexte de ces deux grandes tendances, la due diligence ABAC, faisant partie intégrante de la legal due diligence ou même de la ESG due diligence, devient un outil clé pour les investisseurs.
Alors justement, ABAC, qu'est-ce qu'une due diligence ABAC? Voilà, avec cet acronyme.
Alors, tout simplement, les due diligence ABAC ou anti-bribery et anti-corruption sont des vérifications auxquelles on procède lorsqu'une entreprise souhaite acquérir une autre entreprise. L'objectif étant, d'une part, de connaître le niveau de risque de corruption, notamment en recherchant son éventuelle implication dans une affaire de corruption ou dans d'autres atteintes à la probité, et d'autre part, d'évaluer le niveau de maturité du dispositif anticorruption, de l'entreprise cible, et ceci par rapport aux exigences de l'Agence française anticorruption, de la Serious Fraud Office au Royaume-Uni, SFO, ou de DOJ, donc le département de la justice aux États-Unis. Même si l'année dernière, un tribunal US a limité pour partie le scope géographique du FCPA, il s'agit de la décision du US District Court for the District of Connecticut du 27 février 2020. Il s'agit du dossier Hoskins. Le DOJ va continuer, à notre avis, à appliquer le FCPA hors US d'une manière très extensive. Contrairement à l'affaire Hoskins, où il y a un manque de preuves démontrant la qualité d'agent de M. Hoskins d'une filiale US, d'un groupe français, parce qu'il était dans les faits un salarié d'une autre filiale non US de ce groupe, il y a d'autres affaires en cours où le DOJ met en avant la notion de complicité ou même celle de la bande organisée, en anglais on parle même de conspiracy, pour pouvoir appliquer le FCPA au groupe non-US. C'est bien la raison pour laquelle les investisseurs souhaitent de plus en plus évaluer leurs risques FCPA, entre autres avec l'aide de la due diligence ABAC. Lionel?
Oui, merci Anès. Concrètement, dans ces due diligence, il s'agit d'appréhender le plus possible l'environnement économique et réputationnel de la société cible sur ses aspects anticorruption. Alors, pour ce faire, on procède à des recherches d'informations disponibles. En premier lieu, pour les informations qui sont disponibles en libre accès dans les moteurs de recherche, dans la presse ou même dans les sites de revues de presse où il y a des informations très intéressantes sur ce sujet. Et puis ensuite, on va rentrer dans le détail pour aller dans des outils de screening plus spécifiques aux questions d'éthique des affaires, tels que Nexus Diligence ou Compliance Catalyst qui sont habituellement utilisés par les équipes éthiques des affaires sur ces sujets. Et alors, sur ces points-là, on va s'interroger sur les personnes physiques et morales qui sont parties prenantes à la cible objet de l'investissement. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher des informations sur les dirigeants de la cible, ses bénéficiaires effectifs, ses principaux partenaires avec lesquels elle est en relation d'affaires. On va regarder dans ces informations générales s'il y a eu des éventuels manquements à la probité, corruption, trafic d'influence, favoritisme, dans lequel l'entreprise cible aurait pu être impliquée, voire encore s'il y a eu des sanctions ou bien s'il y a des contrôles en cours d'une agence anticorruption telle que l'AFA ou le DOJ ou le Serious Office, tel que tu as mentionné. Un dernier point d'analyse d'ordre général, il s'agit du périmètre d'activité géographique de la cible et son secteur d'activité, qui, après avoir été déterminé, permet aussi d'affiner l'évaluation du niveau d'exposition au risque de corruption. Une fois cette revue d'ordre général, on va aller dans un second temps plus précisément voir quels sont les points sur les composantes du dispositif anticorruption mis en place par l'entreprise cible pour évaluer le niveau de maturité de cette entreprise à ce sujet. Et alors, ce niveau de maturité, il s'apprécie tant en termes documentaires qu'en termes d'effectivité. L'effectivité qui est un point maintenant mise en lumière et mise en avant par les nouvelles recommandations de l'AFA. L'objectif est donc d'évaluer la conformité par rapport à la loi, Sapin 2 ou UKBI FTPA que tu as cité, et aussi aux recommandations de l'AFA et notamment celles qui viennent d'être éditées en début d'année. Alors, le but de cette démarche d'audit, elle est d'avoir une vision la plus claire possible sur le risque de corruption et aussi sur le niveau de maturité de ce dispositif. Pour le cas échéant, déterminer les actions à mettre en œuvre et un audit en conclusion de cet audit, on va mettre en place un plan d'action qui doit lui-même aboutir en conclusion au coût éventuel de mise en conformité de ce dispositif. Et donc, à l'issue de ces vérifications, l'entreprise acheteuse, elle aura un moyen pour déterminer soit de renoncer éventuellement à l'opération s'il y a un manquement majeur qui est découvert dans le cadre de cet audit, ajuster son prix en fonction du coût de mise en conformité, par exemple s'il faut prévoir des recrutements pour compléter l'organisation et la gouvernance pour gérer ce point d'anticorruption, ou alors éventuellement compléter la garantie de passif pour prendre en considération des coûts ou le risque de sanctions.
Donc, on le comprend, la due diligence ABAC, ce n'est plus un nice to have, mais c'est un must to have. Alors, justement, Lionel, pourquoi ces due diligence extra-financières, cette due diligence ABAC, elle est primordiale pour une entreprise qui souhaite acquérir une société?
Alors, bien évidemment, nous, on le voit d'un point de vue juridique et d'un point de vue sur l'engagement de la responsabilité administrative, civile ou pénale de la société qui va acquérir ou qui envisage cet investissement. Alors, responsabilité administrative, ça me permet de faire un rappel sur la sanction qui peut être portée, en tout cas en France, en cas de non-respect des dispositions de la loi Sapin 2 et plus particulièrement de l'article 17. En cas de non-respect et en cas de manquement, il y a une sanction administrative, c'est-à-dire une amende qui peut être portée à l'encontre de la société, qui va jusqu'à 1 million d'euros pour les personnes morales et 200 000 euros pour les dirigeants. Et
ça me fait un écho sur la responsabilité civile, puisque en cas de manquement, en cas de sanction administrative, en cas d'amende, la société qui va absorber par le biais du transfert universel du patrimoine, eh bien, pourra se voir imputer cette amende sur ses propres comptes. D'où l'intérêt quand même de voir d'ores et déjà s'il y a un risque à ce niveau. Ensuite, risque pénal, puisque là, c'est une des grandes nouveautés de la fin de l'année dernière, de 2020, où la Cour de cassation, à l'encontre du principe de personnalité de la peine en matière pénale, eh bien, a changé sa jurisprudence pour considérer que, en cas de fusion-absorption, la société qui absorbe pouvait se voir considérée responsable pénalement pour les infractions, et notamment en matière d'atteinte à la probité, pour les faits réalisés par la société absorbée antérieurement à l'opération de fusion. D'où vous voyez l'importance considérable dorénavant d'avoir une revue de ces dispositifs, une revue du risque de corruption et une revue aussi des litiges en matière de droit pénal des affaires. Qui me permet aussi de voir aussi le problème du risque réputationnel, puisque non seulement la société qui envisage l'investissement doit se prémunir en cas d'acquisition d'une société qui peut avoir un risque de mise en cause pénale, mais aussi dans les réseaux sociaux, il faut être vigilant à ne pas rentrer dans un investissement où il y aurait un manquement au dispositif lui-même. Donc, ces due diligence, elles permettent d'avoir une meilleure visibilité financière sur le prix, sur les coûts de post-acquisition et de déterminer s'il y a un risque réputationnel. Je permettrai, dans un mot, de dire que ces due diligence, elles permettent de savoir où vous mettez les pieds et de prendre les décisions appropriées en identifiant bien en amont du deal les problématiques de nature financière et extra-financière qui peuvent potentiellement freiner la création de valeur qui était initialement espérée dans le cadre de la post-intégration. Dans un monde qui est toujours plus complexe et réglementé, il faut se comporter de manière transparente et éthique. Et c'est ce qu'on voit maintenant de plus en plus dans le cadre des opérations. La conformité à ces règles anticorruption, elle est devenue pour les entreprises bien plus qu'une obligation légale, proprement dite. Il s'agit d'un prérequis pour assurer sa compétitivité et c'est également à plus long terme un des moyens de garantir la pérennité de l'investissement. Et c'est pour cela qu'à notre sens, les due diligence ESG, plus globalement, elles sont devenues incontournables sur le marché.
C'est clair, Lionel, et on a entendu un enjeu pénal, enjeu de réputation, enjeu de communication, donc vraiment une obligation impérative. Alors, Hannes, toutes les directions juridiques, les directions de la compliance doivent chaque année actualiser leur programme de prévention anticorruption. Aujourd'hui, quels sont les sujets, selon toi, sur lesquels ces directions juridiques et ces directions de la compliance doivent mettre l'accent dans le cadre de l'actualisation de leur dispositif anticorruption?
Oui, Christophe, selon moi, il y a deux sujets sur lesquels les entreprises ne peuvent relâcher leurs efforts. Il s'agit du dispositif d'alerte éthique et de la procédure d'enquête interne, qui, comme l'a rappelé le défenseur des droits, sont finalement les deux pans d'une même problématique, puisqu'il convient vraiment de penser simultanément l'alerte et l'enquête afin de concevoir et mettre en œuvre un dispositif efficace en la matière. Cela étant dit, en pratique, la plupart des entités se sont désormais dotées de procédures d'alerte et d'enquête. Il convient donc désormais pour celles-ci de s'assurer de leur efficacité et robustesse.
Ouais. Oui, c'est un point important. Alors, on va passer la parole à Anne-Charlotte, parce que justement, Anne-Charlotte, selon toi, à date, quelles sont les principales questions que doivent se poser les personnes en charge du recueil et de l'instruction des signalements? C'est un sujet sensible.
Non, tout à fait. La première question selon moi, alors question certes basique, mais qui d'expérience fait sens, est-ce que les informations contenues dans votre procédure d'alerte, notamment la fonction du référent ou le cas échéant, l'identité des membres du comité en charge de l'instruction des alertes, sont à jour ou nécessitent-elles une actualisation? Et d'ailleurs, si une mise à jour de ces informations est rendue nécessaire, autant en profiter pour procéder à une véritable refonte de la procédure d'alerte afin d'en faire une sorte de guide pratique accessible à l'ensemble des parties prenantes. L'idée étant vraiment de présenter dans un langage clair le dispositif dans son ensemble afin qu'un utilisateur potentiel puisse rapidement prendre connaissance, notamment des rôles et responsabilités de chacun dans le recueil et le traitement des signalements, mais aussi de lui présenter les garanties de protection qui lui sont offertes en tant que lanceur d'alerte. Autre point d'attention également, la communication. Alors, si la totalité des entreprises ont bien procédé à la diffusion de leurs procédures d'alerte, elles doivent être en capacité de prouver qu'elles communiquent régulièrement auprès de l'ensemble des utilisateurs potentiels sur l'existence de cet outil, ses modalités de fonctionnement et ses garanties de protection. Donc, tous les canaux de communication peuvent être utilisés à cette fin. L'essentiel, c'est vraiment d'être en capacité de le documenter. À cette fin, vous pouvez avoir recours à des newsletters, des mails, des focus dédiés sur la page d'accueil de l'intranet, par exemple. Ce point peut aussi être abordé dans le cadre de réunions, qu'elles soient d'ailleurs en distancié ou en présentiel. Retenez, il n'y a vraiment pas d'impératif en la matière. Il me paraît important cependant de varier les supports de diffusion, d'être synthétique, impactant, afin de susciter la confiance des utilisateurs potentiels dans ce dispositif. D'ailleurs, sur ce dernier point, afin de vérifier l'efficacité de votre dispositif de communication, il pourrait être intéressant de déployer un ou plusieurs dispositifs, alors que ce soit un sondage anonyme, la formalisation d'une déclaration annuelle de conformité, par exemple, vous permettant de vous assurer au moins annuellement que vos personnels connaissent l'existence de votre dispositif d'alerte et se sentent assez en confiance pour l'utiliser. Vous pouvez bien sûr profiter de cet exercice pour vous assurer de la connaissance par vos personnels des règles de conduite applicables au sein de votre organisation en matière de cadeaux, invitations, prévention et gestion des conflits d'intérêts ou mécénat et sponsoring, par exemple. Enfin, dernier point, il me paraît également important de rappeler que la formation des personnes impliquées dans le traitement des alertes ou qui sont d'ailleurs susceptibles de l'être est quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas uniquement de former le référent, puisque toutes les personnes en charge du recueil de l'instruction d'une alerte ou pouvant potentiellement l'être en raison de leur fonction, puisque une alerte peut aussi, on a tendance à l'oublier, être finalement émise en dehors du système dédié, et bien l'ensemble de ces personnes doivent recevoir une formation spécifique portant notamment sur les impératifs en matière de confidentialité des informations recueillies.
Oui, enfin, quatrième et peut-être dernier point d'attention, selon moi, la formalisation d'une procédure relative aux enquêtes internes. C'est une chose primordiale et pour autant, très peu d'entreprises en sont aujourd'hui dotées. Conformément aux bonnes pratiques applicables et aux recommandations de l'Agence française anticorruption en la matière, cette procédure doit notamment prévoir les critères nécessaires au déclenchement et l'instruction d'une enquête, les fonctions chargées de procéder à celle-ci, ainsi que les modalités de leur réalisation. Nous, les avocats, sont extrêmement bien outillés pour instruire et mener ces enquêtes pour les entreprises de manière professionnelle et avec toute la confiance et la confidentialité qui s'imposent.
Merci à tous les deux. Et alors justement, Annès et Anne-Charlotte, aujourd'hui, pouvez-vous nous rappeler ce qu'il en est de la protection du lanceur d'alerte, qui était toujours un sujet aussi très sensible. Donc, comment on peut protéger le lanceur d'alerte contre les représailles? Parce que ça semble être un élément clé quand même du dispositif.
Oui, il est vrai que la préoccupation principale de la personne chargée de mener une enquête interne doit être d'identifier la matérialité ou non des faits objets du signalement, tout en respectant les droits des parties en présence. Si les compliance officers ont souvent tendance à se focaliser sur les droits du lanceur d'alerte et sur l'importance d'assurer la confidentialité de son identité et des informations communiquées dans le cadre du signalement, afin de le protéger contre d'éventuelles représailles, ce qui est tout à fait légitime. Il est également impératif d'offrir aux personnes visées par l'alerte un certain nombre de garanties. Anne-Charlotte?
Oui, effectivement, Annès. Les personnes visées par l'alerte doivent bénéficier, au même titre que le lanceur d'alerte d'ailleurs, de la confidentialité attachée au signalement. Autre élément clé, selon moi, c'est vraiment le respect du cadre légal propre aux opérations de vérification qui peuvent être menées dans le cadre d'une enquête interne. Alors que ce soit la revue d'email, la fouille d'un casier ou d'un bureau, l'exploitation d'éléments de géolocalisation, par exemple, ou de la vidéosurveillance, il est vraiment fondamental de mener l'enquête dans le respect du droit applicable et surtout de documenter toutes ces étapes via la rédaction de PV d'entretien, de rapports d'enquête et l'établissement d'un PV lors de la réunion tenue par l'organe qui va être chargé de décider de l'issue de l'enquête interne, le comité éthique par exemple. Et au-delà de ces PV, c'est vraiment l'ensemble des informations, des documents rédigés, collectés dans le cadre de l'enquête interne qui doivent être archivés afin de prouver que l'instruction d'une alerte a été effectuée conformément au process formalisé dans la procédure d'alerte et ou d'enquête interne et dans le respect des droits de chacun. Car il faut vraiment avoir conscience que si l'enquête n'est pas réalisée conformément aux garanties précitées et qu'elle aboutit au prononcé d'une sanction, le salarié sanctionné pourrait être amené ensuite à contester le bien fondé de la sanction prononcée à son encontre devant les juridictions compétentes. Et là, il en découlerait non seulement un préjudice financier pour l'entreprise, mais le climat social pourrait en pâtir également, engendrant notamment une perte de confiance des collaborateurs dans le dispositif d'alerte. Vraiment, en la matière, le conseil que je donne à nos clients, c'est vraiment de s'assurer impérativement de la formation sur ces sujets des personnes en charge de l'enquête. Il est également recommandé de leur faire signer un accord de confidentialité renforcé et de ne pas hésiter, en cas de besoin, à se faire accompagner par un cabinet spécialisé pour les aider dans la formalisation ou la revue de leurs procédures d'enquête interne, ainsi que le cas échéant dans la mise en œuvre de celle-ci.
Mais merci Anne-Charlotte, oui, parce que la formalisation ou la revue de la procédure d'enquête interne est un point indispensable et peut-être parfois sous-estimé par certains dans entreprises. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Lionel, peux-tu nous indiquer comment les entreprises peuvent s'assurer que les procédures anticorruption sont bien respectées par les salariés?
Oui, alors je dirais qu'il y a deux points clés pour s'assurer que les salariés respectent bien ces procédures internes. Le premier, c'est de se focaliser sur le suivi du dispositif. Et le deuxième, c'est de rentrer dans le prononcé de sanctions en cas de constat de violation. Alors, s'agissant du suivi du dispositif, à mon avis, dans un premier temps, il faut mettre en place un dispositif qui va permettre la mise en œuvre d'un certain nombre de tests permettant de s'assurer de la fameuse effectivité dont on parle depuis le début de cette intervention. Alors, quelques exemples très concrets de tests typiques à réaliser. Le premier, celui auquel je pense, c'est de voir si tous les nouveaux arrivants ont bien reçu un exemplaire du code de conduite et qu'ils ont signé les accusés de réception et qu'on peut bien les retrouver archivés. Ensuite, par exemple, c'est de s'assurer que les salariés ont bien suivi les formations anticorruption qui sont mises en place par l'entreprise. Alors, aussi bien à leur moment où ils rentrent dans l'entreprise que tout au long de l'exécution de leur contrat de travail et de leur participation. Ensuite, on peut aussi vérifier dans les contrats si les clauses anticorruption qui ont été rédigées par la direction juridique ont bien été insérées dans tous les contrats signés au cours du dernier exercice fiscal. Ensuite, on peut aussi, et c'est peut-être un point très, très important, c'est de s'assurer que les procédures de due diligence qui sont applicables aux fournisseurs ont bien été concrètement mises en œuvre et que là aussi, on peut documenter le respect de cette procédure en allant voir matériellement si les questionnaires ont été correctement remplis à cet effet. Ensuite, si dans cet exercice de test, on identifie des manquements au code de conduite ou à ces procédures internes, eh bien, à notre avis, celles-ci, elles doivent donner lieu à des sanctions. Et c'est vraiment, à notre avis aussi, la condition sine qua non de l'effectivité du dispositif anticorruption. Et c'est un point qui est contrôlé par l'Agence française anticorruption en cas d'audit de sa part. Alors, de quelles sanctions parle-t-on? Eh bien, ce sont toutes celles prévues par le droit du travail. Alors, il y a le licenciement, bien évidemment, mais il y a tout un éventail de sanctions qui sont possibles aussi. Et les avertissements, les mises à pied, les retraits de primes peuvent être envisagés en cas de non-respect du code ou de ces procédures interne. Et bien évidemment, si les manquements sont très importants et que même l'entreprise est victime, eh bien, il ne faut pas hésiter aussi à envisager des poursuites pénales, voire éventuellement à aller faire des révélations auprès du procureur de la République si cela nécessite. Pour ça encore, je écho à ce que disait Charlotte, il ne faut pas hésiter à faire appel à son avocat sur ces points-là, parce que la notion de confidentialité, elle est très importante dans ces moments-là. Alors, pour illustrer le fait qu'on est vraiment passé en ces 10 dernières années de ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure du soft law à du véritable droit positif, on a relevé quelques arrêts très récents qui permettent d'illustrer que ces codes de conduite et ces procédures internes, que ce soit par exemple en matière pour les règles sur les cadeaux et invitations, on voit bien que maintenant, vous avez par exemple un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, qui est très récent, il y a quelques mois, qui est venu valider un licenciement d'un directeur commercial qui n'avait pas respecté les procédures de sélection des partenaires pour un distributeur en matière d'armement en plus, et qui était basé à Abu Dhabi, c'était un nouveau distributeur. Eh bien, le directeur commercial n'ayant pas respecté la procédure, il a été licencié. Alors, ce qu'il y a de aussi intéressant, c'est que le licenciement a été considéré comme causé, avec une cause réelle et sérieuse. En revanche, il n'a pas été considéré comme suffisamment caractérisant une cause grave. Donc là, on voit bien ce que disait aussi Anne-Charlotte, c'est l'importance de documenter l'enquête interne au préalable pour pouvoir par la suite faire le plus que le licenciement soit le plus adapté et qu'il n'y ait pas de risque de remise en cause.
Bon, alors Lionel, on va peut-être voilà raccourcir. Je sais qu'il y avait d'autres éléments, mais merci. Il nous reste deux minutes. Alors Anne-Charlotte, ce sera ma dernière question. L'instance, enfin, on pense savoir quelle est la réponse, mais tu vas la nourrir. L'instance dirigeante a-t-elle un rôle à jouer en la matière?
Alors, je dirais que non seulement l'instance dirigeante a un rôle à jouer en la matière, et j'ajouterais même que ce rôle est crucial, et cela pour deux raisons: la conformité aux exigences de l'AFA, mais aussi la mise en œuvre d'une véritable démarche de conformité soutenue par les plus hautes instances de l'organisation, puisque pour que le dispositif fonctionne, chaque collaborateur doit vraiment avoir l'assurance que celui-ci est soutenu au plus haut niveau de l'organisation. Concrètement, hein, comme est venu le rappeler l'Agence française anticorruption dans ses recommandations publiées en janvier dernier concernant le dispositif d'alerte, en la matière, le rôle de l'instance dirigeante doit s'incarner dans un certain nombre d'actions. Donc, tout d'abord, c'est elle qui doit désigner les personnes en charge d'investiguer les signalements reçus et d'allouer toutes les ressources nécessaires à leur action. En cas de manquement avéré au code de conduite, il appartient également à l'instance dirigeante et bien tout simplement de décider des suites à donner. Alors, essentiellement, hein, à son niveau, ça va être prononcé de sanctions disciplinaires et ou saisine des juridictions compétentes. Et cela, bien sûr, après avoir pris connaissance du rapport d'enquête qui lui a été communiqué. Et enfin, en quelques mots, parce que je vois que le temps file, c'est également l'instance dirigeante hein, qui va être informée de l'effectivité du dispositif de recueil et d'instruction des alertes, et ceci via la mise en place d'indicateurs qui visent à apprécier la qualité et l'effectivité du dispositif d'alerte, en veillant, bien sûr, et là c'est vraiment le dernier point sur lequel je vais insister, à intégrer dans le reporting qui est fait à l'instance dirigeante l'ensemble des signalements reçus au sein de l'organisation, et ce, quel que soit le canal utilisé, c'est-à-dire y compris les signalements émis qui sont hors système, c'est-à-dire tous ceux qui sont effectués par exemple par la voie hiérarchique ou via les fonctions clés de l'organisation, je dirais.
Merci à Charlotte. Bon, merci. Voilà, il y avait Anès, peut-être un mot, mais vraiment un mot, je pense qu'il confirme le point de Charlotte. Hein. Pour clore ce...
Je veux juste souligner l'engagement peut-être de l'équipe dirigeante, parce que cette mobilisation de l'équipe dirigeante s'appuie sur l'obligation de conformité d'un côté aux exigences de l'AFA, mais également aujourd'hui sur l'engagement des dirigeants pour mettre en œuvre une véritable stratégie ESG. Et c'est cette dernière perspective stratégique qui est un véritable levier pour les directions juridiques permettant de mobiliser réellement les équipes dirigeantes. Donc, pour conclure, et faisant référence aux deux grandes tendances observées, donc la demande croissante des investisseurs d'une analyse ABAC et l'émergence du sujet anticorruption dans le cadre du reporting extra-financier ESG. Je tiens simplement à signaler que nous sommes à votre disposition pour vous aider à travers les projets de renforcement des dispositifs anticorruption avec l'instruction des enquêtes internes, avec la due diligence ABAC, faisant partie intégrante de la legal due diligence ou même de la ESG due diligence. Et pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci beaucoup, Anas. Merci beaucoup, Anas. Merci beaucoup à tous les trois. Sur ces sujets, vous avez déjà fait d'autres webcasts et publié des articles et on vous retrouvera, je pense, sans doute à la rentrée parce que les sujets sur les enquêtes internes et sans doute aussi explorer encore plus les enjeux autour des due diligence impact méritent de vous revoir. Merci à tous.